tout avait commencé dans le calme.
Soupçonné d'avoir reçu des pots de vin, toujours au Proche-Orient.
Pas le moyen pour répliquer.
Ils ont gaz lacrymogène.
Eux, ils ont les matraques, ils ont tout. Nous, on n'a rien, on a que les mains, on a que des pierres.
Un fasciste, la gangrène, les villes, pour la
gangrène. L'esclavage n'a hélas pas totalement disparu, y compris en France.
Uniquement le pognon, est-ce que vous êtes content avec ça?
Une question se pose. Les expériences aériennes françaises sont-elles dangereuses?
Est-il vrai que le 26 juillet 2006, une catastrophe nucléaire a été évitée de justesse en Suède?
Oui, c'est parfaitement vrai.
Mais dans le bateau, là où nous sommes embarqués, il n'y aura pas de canot de sauvetage.
L'incompatibilité entre l'existence du capitalisme, la nature du capitalisme, forcément, et la gestion des problèmes écologiques.
Oh là là, il y en a des choses affichées à la poubelle.
Hello, bonsoir à tous et à toutes. Il est pratiquement 19h à ma pendule personnelle, c'est à peu près la même heure, à la pendule rouge et noire de Radio Canu. Vous êtes à l'écoute du Canu Info du jeudi avec l'équipe du jeudi. Assez traditionnellement, nous avons donc Laurent au micro jaune et à la technique.
Voilà, bonsoir, et Delphine.
Et voilà, moi je suis au micro bleu ce soir puisque le vert est toujours un petit peu tordu. Oui, le vert, hein, l'écologie, le bleu, ça nous fait tout de suite penser à la droite, tout ça. Alors depuis qu'on s'est absenté, il s'est passé plein de choses, hein. Il y a eu les résultats des élections, ce qui a amené à la démission de monsieur Laurent Wauquiez. Et là, on fait quoi? On fait youpi, 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 parce qu'il a démissionné du chef des Républicains.
Malheureusement, pas de la région.
Ben non, mais en fait, déjà, ça nous fait marrer, parce qu'en fait, ils se sont écroulés quand même, il faut bien le dire. Ce qui, d'ailleurs, a amené 20 minutes, le site en ligne, hein, comme le journal, vous voyez, hein, mais c'est en ligne, à faire un quiz, et ça s'appelle « Qui est le pire loser entre LR et PS ?» Faites notre quiz. Je te jure, il y a 9 questions, c'est super drôle. Donc en fait, tu dois choisir entre, est-ce que c'est les Républicains, le Parti Socialiste ou les deux à qui il est arrivé quelque chose. Parmi des questions, c'est dans quel parti le chef a dû démissionner. Donc bah, là, je vous le dis, hein, je vous raconte la fin, hein, c'est les deux. Une autre des questions, par exemple, c'est quel est le parti qui a dû vendre son siège pour rattraper un petit peu des sous, hein. Bah, là, je vous le donne aussi dans le mille. Les deux. Mais voilà, c'est assez marrant que quand même on ait des journaux qui s'amusent à ce genre de quiz complètement inintéressant et complètement débile. Mais ça veut dire à quel point aujourd'hui on a nos partis dits traditionnels qui se sont quand même bien foirés depuis quelques élections. Malheureusement, effectivement, c'est le Rassemblement National qui fait encore bien parler de lui, hein, ce parti raciste, xénophobe, fasciste, hein, disons-le, allons jusqu'au bout, qui est encore bien placé puisqu'apparemment ça ne gêne pas les gens de voter pour le Rassemblement National, qui se dit un parti propre maintenant.
Bah, avec toutes les affaires qu'ils ont de détournement d'argent, c'est pas très propre tout ça.
Je savais que j'allais te lancer sur tout ça. Ouais. En tout cas, il se passe plein de choses, hein. Nous allons ouvrir ce Canu Info en parlant de monsieur Colomb, notre maire à nous, parce qu'il nous est rendu et nous en sommes heureux. Et avec Laurent, nous parlerons de la végétalisation de la ville de Lyon.
Oui, et on parlera pas de ses ennuis judiciaires puisque ça, on en a causé hier sur Radio Canu et que pour l'instant, on n'a pas beaucoup plus d'infos. Ouais. On va attendre. Et on espère beaucoup.
Alors, quand tu dis on, c'est évidemment l'équipe du mercredi qui en a parlé. Ouais. Mais vous pouvez lire sinon Le Canard Enchaîné pour aussi lire un petit peu la trame.
Parce qu'en fait,
hein,
c'est bien
ça.
Le canard qui a sorti le bousin.
Alors, il faut savoir qu'il y a aussi la presse lyonnaise qui en avait parlé. Et le canard a rebondi sur ce qui était déjà aussi dit dans Lyon Capital, par exemple. Donc, c'est pas que le canard, c'est aussi. On a une presse lyonnaise qui, des fois, quand même, fait un peu des trucs. Hein, c'est quand même pas mal. Et puis, il se passe plein de choses, hein, puisqu'on a, par exemple, Rachida Dati qui a des soucis aussi, parce que l'affaire Ghosn. Vous savez, ce monsieur qui a des villas un peu de partout, enfin qui les avait, parce qu'apparemment, bon, il en a moins, qui fait de la prison au Japon, ben, il a encore des soucis, il n'arrête pas. Hein, et puis on apprend que tout ça, ça se répand. Donc, l'affaire de Renault, Nissan, tout ça, c'est pas fini. Et puis en plus de ça, on a appris que cette belle fusion qu'on espérait, qu'on attendait, enfin nous non, mais...
Non, enfin les capitalistes et les gens qui jouent en bourse, parce que les salariés, voilà, pas du tout.
Et mais cette fusion avec Fiat Chrysler ne se fera pas, oui, pour l'instant. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas se faire au mois de septembre, mais là, tout de suite maintenant, ça a foiré.
Ça ressemblait plus à une tentative de prise de pouvoir de Fiat et Chrysler que d'autre chose, mais bon.
Donc on ne reviendra pas là non plus là-dessus, parce que c'est vrai que tout le monde en a quand même pas mal parlé aussi dans la presse, mais c'est vrai que c'est une affaire assez intéressante qui va certainement rebondir, parce que Fiat cherche des partenaires, Renault se doit aussi d'en trouver. Monsieur Ghosn continue à avoir des soucis judiciaires, mais ça n'arrête pas, c'est assez rigolo. Et puis aujourd'hui aussi, il y avait le 75e anniversaire du débarquement, dont on ne va pas plus vous parler. Ça a créé des difficultés diplomatiques, puisque Monsieur Poutine n'a pas été invité.
Il n'a pas débarqué là, Poutine, il a envoyé ses hommes, enfin, pas lui, mais l'Union soviétique, c'était de l'autre côté, avec beaucoup plus d'hommes d'ailleurs, et c'est bien l'action des deux qui a fait tomber le régime nazi, mais effectivement, il faut commémorer ce qui s'est passé de l'autre côté, monsieur. Alors, Poutine, faire la gueule là.
C'est ça, effectivement. Ce qu'on sait rapidement, c'est que monsieur Trump, il aime monsieur Macron. Je caricature à peine, parce que c'est à peu près ses propos. Donc voilà, il s'est passé un petit peu des choses, hein, pendant
je
qu'on n'était pas là.
Ouais.
Et ben oui, mais il paraît qu'il lui a dit que non, en fait, comme ça, que quand même il l'aimait. Alors, de toute façon, avec M. Trump, on ne sait pas bien. Hein, M. Macron, il fait ce qu'il peut de l'autre côté. Attends, bon,
très
voilà.
Bien, ouais.
Hein, pardon. Voilà, quant à M. Poutine, bon, ben en fait, il dit que de toute façon, ça ne sert à rien, cet anniversaire.
Il a raison.
Mais il est un peu vexé en même temps.
Bah, non, mais il n'a pas tort. Commémorer les guerres, c'est préparer les prochaines.
C'est effectivement ça.
Donc,
sauf que M. Poutine en fait lui-même. Donc, voilà. En fait,
même si c'est une victoire contre l'extrême droite et contre les nazis, on va arrêter de vivre sur cette victoire-là, puisque pendant ce temps, les nazis et leurs descendants, eux, gagnent tous les jours dans pas mal de pays d'Europe, et notamment en France. Et le combat, il est actuel et pas du tout dans cette commémoration, comme on peut voir un peu partout.
Alors, même si c'est pas des nazis, en tout cas, c'est une extrême droite et des groupes fascistes.
Sur leurs descendants.
Voilà, mais et puis même quand c'est pas les mêmes types d'enfants, en tout cas il y a une nouvelle vague qui arrive, malheureusement un peu de partout comme tu le dis. Monsieur Trump en fait d'ailleurs partie de cette extrême droite raciste, entre autres, hein, mais sexiste, homophobe, enfin voilà. Donc on je vous disais, on commencera d'abord donc avec Monsieur Colomb, Gérard, notre ami, qui a tout plein d'idées. Nous parlerons de l'usine de Ferrero, on ira faire un petit tour du côté d'une nouvelle sanction de la CNIL qui s'en prend à Sergic, 400 000 quand même. On ira faire un petit tour du côté de trois syndicalistes. Nous parlerons de ni Dieu, ni maître, ni homophobe. Nous parlerons de sexisme et de talons. Et là, c'est Laurent qui nous emmènera au Japon. Nous parlerons du Soudan. Et puis après, on fera un petit tour du côté de la culture, des médias. Nous parlerons des illuminés anti-Linky.
On n'aura peut-être pas le temps.
Pas
là.
Le temps, mais on va essayer. Et puis si on a le temps, peut-être d'un truc sur Tchernobyl. Mais de tout de suite, Monsieur Colomb.
Oui, alors une petite info que j'avais intitulée l'escroc de l'écologie urbaine. Alors c'est un spécialiste, hein, de l'escroquerie sur l'écologie urbaine, c'est un militant anti-écolo depuis de nombreuses années qui n'a mis en place des choses que sous la contrainte électoraliste, puisque Gérard Collomb est très sensible à tout ce qui est électoraliste. En tout cas, ce matin, il a fait devant un parterre de journalistes une grande présentation d'un projet expérimental, c'est comme ça que ça s'appelle, de végétalisation des rues. Il s'est d'ailleurs amusé en disant que tout le monde parle, tout le monde s'intéresse à la question climatique et lui aussi. Voilà, c'est vraiment un pur escroc dans ce domaine-là, bien évidemment. En tout cas, cette conférence de presse avait attiré beaucoup de monde, parce que bon, les journalistes étaient attirés par les affaires judiciaires qui embêtent Monsieur Collomb en ce moment. Mais lui, il est venu parler de petits pots de fleurs. Grosso modo, c'est ça dont il est question. Alors l'idée, c'est de présenter un projet qui s'appelle Presqu'île Nature, une expérimentation de la végétalisation des rues de Lyon. On rappelle, pour celles et ceux qui ne sont pas au courant, que quand on a les grosses chaleurs comme on a maintenant en juillet, août et des fois septembre, voire juin, liées au dérèglement climatique, on a des températures au sol dans certaines rues de Lyon qui dépassent les 50 degrés allègrement, dues notamment au goudron, à l'artificialisation des terres. Enfin, il n'y a plus de terres, elles sont dessous les terres, mais voilà, à l'artificialisation. Et la question importante, c'est comment lutter contre ces îlots de chaleur. Et la solution, elle est connue depuis très très longtemps. Il suffit de planter des arbres et de la pelouse, enfin de l'herbe et des plantes. Et on fait baisser de 10, 15, 20, 30 degrés. Enfin, il y a des études scientifiques. Et c'est très très important. Alors, on se dit, bon ben voilà, la solution, on la connaît. On vire toutes les bagnoles et on plante des arbres à la place. Et on gagne 20 degrés au sol. L'été, c'est énorme. Hein, on souffre plus du tout de la chaleur. Alors bien évidemment, Colomb, il fait pas ça. Hein, en défenseur de l'automobile, il peut pas se permettre de faire ça. Donc dans son petit projet ridicule qui va concerner la rue Édouard Herriot et la rue de Brest, donc sur la presqu'île, il a prévu, alors il y a des beaux croquis, des beaux, belles photos, des photomontages, tout ça, de mettre effectivement quelques bacs en bois garnis d'arbustes et de plantes. Donc ça va pas loin déjà. Et en plus, il les met où ? Il les met sur les couloirs de bus et sur les emplacements cyclables. Ah bah ouais, faut pas toucher à la sacro-sainte bagnole que défend ardemment Monsieur Colomb depuis toujours. Donc là, on tombe dans le ridicule. Voilà. Du coup, certaines rues vont se retrouver avec une seule partie circulable dans laquelle il y aura tout le monde, les bus, les bagnoles et les pauvres cyclistes au milieu de tout ça, qui vont à nouveau encore plus risquer leur vie. Tout ça pour planter des arbres. Or, la solution, elle existe. Elle existe, comme je l'ai dit, il suffit de prendre sur le parking de surface. Et surtout que c'est à cause de ce parking de surface, entre autres, qu'on a ces îlots de chaleur. À savoir que 57% de l'espace public aujourd'hui est dédié à la voiture. 57%, c'est beaucoup. Il ne reste pas grand-chose après à se partager entre les plantes, entre les piétons, les cyclistes et puis les terrasses de bar et les choses comme ça. Hein. Donc voilà, c'est sa présentation ridiculement inutile. Alors à cette vitesse, alors il explique, oui, c'est pas très ambitieux, mais vous rendez pas compte, si je piétonise, ça va être la révolution. Alors le jour où la piétonisation des villes entraîne la révolution, ben on en reparlera, puisque plein de villes ont fait ça sur des centres-villes, voire des parties entières de villes. Ça a jamais entraîné la révolution. Le seul truc que ça a fait, c'est augmenter le commerce. Contrairement à ce que disent les commerçants lyonnais, toutes les villes qui ont fait ça ont augmenté le commerce. Donc pas de révolution dans l'air. En tout cas, si on prend les mesures de Gérard Collomb, il va falloir des milliers d'années pour résoudre le problème des îlots de chaleur. Or, c'est quelque chose qui devrait être mis en place à court terme, mais Gérard Collomb, lui, il est trop adorateur des gaz d'échappement, des particules cancérigènes, enfin voilà, tout ce qui est issu des bagnoles. D'ailleurs, si vous le croisez à vélo ou en transport en commun, bah prenez des photos parce que ça n'est jamais arrivé quasiment. Voilà.
Alors, sauf quand il est en déplacement. Alors, c'est avec ce projet Presqu'île Nature, c'est un drôle de projet, ça s'appelle comme ça, Presqu'île Nature, ce
non,
projet.
Non, mais tu dis quand il est en déplacement, tu l'as déjà vu.
Eh ben quand il est en déplacement de politique, pardon.
Ah oui, quand il fait semblant d'aller prendre le métro. Quoi.
C'est déplacement oui. Politique, forcément, quand il se déplace.
En plus, il paye pas, lui. Il a un abonnement gratuit.
Et tu sais, qui, avec les caméras et les journalistes et tout ça, c'est là où, en fait, il prend sinon le métro, en tout cas,
il est dans la station. Il prend le métro juste pour la photo.
Pour la photo, mais tu sais, il y a d'autres villes, en fait, à Toulouse, ils veulent lancer des dalles rafraîchissantes avec un système de récupération d'eau de pluie là où en fait voilà donc toutes les villes tentent de trouver des solutions à ce réchauffement donc nous on a des bacs
non, en fait la seule solution c'est ça c'est d'enlever le goudron et de laisser les plantes pousser dans de la terre
bah nous voilà on a donc Presqu'île Nature qui déjà Presqu'île Nature ça voilà ça comment c'est un peu restrictif c'est très marrant j'avais envie de vous parler de plusieurs choses on va parler de tout rien à voir hein. On va partir en Seine-Maritime et on va parler de cette usine Ferrero qui a connu une belle grève. Oui. Puisque elle a débuté le 28 mai dernier, elle s'est arrêtée hier matin, c'est-à-dire que la production a repris hier mercredi à 5h du matin. On avait donc un syndicat FO qui était à la manœuvre, qui a appelé à la grève les salariés de ce site, qui est un énorme site, hein, puisqu'il y a 400 personnes qui y travaillent. Et c'est, on dit, le plus gros site de production de Nutella. 600 000 pots de Nutella par jour, c'est un quart de la production mondiale.
Comment on peut sortir autant de pots en une journée ouais.
Moi, c'est un chiffre, j'ai dû aller le vérifier, et tout le monde a le même, parce que j'y ai pas cru.
Non, mais c'est tout automatisé, tout ça, c'est impressionnant de voir les chaînes. Et d'abord, il n'y a qu'une seule chaîne. Hein,
et puis d'abord, on rappellera que tous les pots ne se ressemblent pas, donc je ne sais même pas. Ouais. En fait, je ne peux pas vous dire le nombre de kilos que ça fait
c'est
à
juste
la fin.
Que l'industrialisation, comme ça, ça sort des chiffres incroyables.
Alors, on rappellera que sur cette usine, il n'y a pas que du Nutella, puisque là, c'est la production du Kinder Bueno qui s'est arrêtée. Totalement. Et puis, on avait plus que 20% de la capacité des lignes de production qui permettait la production de ce fameux Nutella. Alors pour ceux et celles qui vivent dans une grotte, le Nutella, c'est un machin sucré et gras qu'on met en général sur du pain ou qu'on mange à la petite cuillère.
Pâte à tartiner, chocolat noisette.
Voilà. Chocolat, faut le chercher.
Quand même.
C'est pas grave. Alors, donc, je vous le disais, il y a un accord qui est donc.
Il y a la couleur.
Ouais, c'est marrant. Ce qui est intéressant d'ailleurs, je fais juste une petite parenthèse, c'est qu'il y a une analyse sur les pâtes à tartiner bio pour savoir si c'était mieux ou pas. Il faut bien se dire que c'est tout aussi gras et tout aussi sucré. Les gens qui pensaient que. Parce que là, il y a eu des articles sur des analyses qui ont été faites par les trucs de consommateurs. C'est, moi, je trouve même un mauvais procès
qui est fait
aux marques bio, puisqu'elles n'ont jamais dit que ça allait être moins gras et moins sucré. Enfin, faut arrêter. Voilà, c'est débile. Enfin bon, ce genre de comparaison est d'une stupidité quand même assez impressionnante. Alors, donc, hier, donc, mercredi, la production a repris. Il y a une entente qui a été validée entre les salariés et la direction, en tout cas entre les salariés grévistes et la direction. Les grévistes réclamaient une prime de 900 euros, c'est-à-dire la prime Macron.
Oui.
Ben, ils s'estiment que à faire euro.
Vu le bénéfice qu'ils font, ils auraient pu avoir cette prime.
Voilà. Donc, ils ont obtenu a priori, pour ce qu'on en sait, 800 euros sur. C'est pas mal parce
c'est
que c'était 900 euros qui étaient demandés. Ouais. Et pour les augmentations de 4,5, alors on n'en est pas là. C'est une augmentation minimale du salaire indexé sur l'inflation. Je sais pas bien ce que ça va nous représenter à long terme. Mais bon, c'est-à-dire que quand même, au bout de 8 jours, il y a eu quand même quelque chose qui est arrivé. Il faut dire tout de suite, évidemment, quand on ferme une usine Nutella, ben, ça fait causer dans la presse, parce qu'en plus, c'est pas écrit usine Ferrero, c'est écrit usine Nutella dans la presse, donc c'est tout de suite, ça frappe. Donc, je vous le disais, 400 personnes en CDI sur cette usine, c'est quand même Ferrero, le troisième groupe mondial de confiserie et de chocolaterie, comme on dit. Ferrero a doublé le chiffre d'affaires en 10 ans. Donc c'était déjà un groupe mastoc, mais qui là quand même a explosé cette dernière décennie. Il y a 22 sites de production, 30 000 employés chez Ferrero. On sait que c'est un peu comme chez Boiron, hein, Ferrero, c'est difficile de savoir ce qui s'y passe. Et pendant très très longtemps, on n'a pas su s'il y avait des mouvements à l'intérieur et s'il y avait des plaintes. Il y avait eu une grève en 2011 sur ce site de Seine-Maritime. Donc ça veut dire que c'est quand même là-bas où, a priori, il y a aussi des gens motivés pour faire la grève et amener une contestation quand il y a une estimation que les salariés méritent mieux, donc c'est plutôt une bonne chose. Voilà, c'était juste très rapidement vous parler de ça. De quoi j'ai envie de vous parler très rapidement aussi, c'est des syndicalistes de la CGT qui étaient poursuivis pour violence en réunion contre Sébastien Chenu, député Rassemblement National, membre du Rassemblement National. Ça s'est passé en mars 2018. Il y avait à Valenciennes une manifestation CGT Métallurgie pour la sauvegarde du site. A priori, les CGTistes n'avaient pas trop apprécié...
L'incruste de l'extrême droite.
Ouais. De l'extrême droite.
Ils l'ont viré Manu Militari.
Alors, la justice a relaxé les syndicalistes, donc on peut penser qu'ils l'ont viré pas si gravement que ça.
Pas si violemment que ça, en tout cas...
Ils lui ont demandé en tout cas de partir.
En tout cas, déjà, on saluait leur geste, qui était bienvenu.
Oui, parce que même que ce soit oral ou physique, de toute façon, c'est bien qu'il y ait effectivement l'extrême droite qui soit virée d'un rassemblement, d'une manifestation. En tout cas, il y a eu un mouvement de foule. Avec mes petits bras, j'agite pour montrer que ça va d'à droite à gauche, comme ça, devant, derrière. Et que le Sébastien Chenu, il s'est caché dans un magasin. Et il a été sauvegardé par la police.
Oh là là, c'est beau.
Oui, qui est intervenu pour le protéger, quand même. Ça aussi, il faut quand même le noter. Et donc, a priori, à l'audience, il n'y avait pas de vidéo, il n'y avait rien, pas de traces. Donc, c'était un peu parole contre parole. C'est comme ça que ça s'est passé. Et que les syndicalistes ont donc été relaxés. Mais comme tu l'as dit, nous, courageux toujours. Et salutaire de virer l'extrême droite de tout ce genre de récupération.
Voilà, ce que n'ont jamais su faire là, les gilets jaunes complètement, parce que chaque fois qu'on a croisé Manif, il y avait des petits fachos avec des belles banderoles et des beaux drapeaux.
Mais c'est plus compliqué parce que la Manif, elle est pas... Là, la CGT, Métallurgie, ça leur appartient purement à eux.
Oui,
je veux dire, il y a d'autres gens qui sont syndiqués, d'autres gens qui ne sont pas syndiqués. Mais en tout cas, ça appartenait aux salariés.
De
faire ce qu'ils veulent et d'accueillir qui ils veulent, et ça c'est important. Mais moi je peux aussi dire que si jamais des gens demain viraient la France Insoumise, c'est leur droit aussi.
Oui.
Voilà. Non, mais... Parce que c'est les partis politiques et qu'on a le droit aussi de les virer pour éviter de la récupération.
Oui, parce que c'est que de la récup, hein, c'est de l'instrumentalisation en plus de la souffrance dans, enfin, dans des zones où les syndicalistes se battent pour sauvegarder un bout de travail. La récupération est toujours très désagréable,
mais quelle que soit la couleur politique. Ça peut être aussi des fois bien d'avoir aussi un élu politique régional, local, qui vient aussi t'aider dans ta lutte, parce que peut-être qu'il peut aussi participer. C'est aussi son droit, donc tout ça, c'est vraiment des décisions qui doivent être prises par les grévistes, les travailleurs, les travailleuses. Alors, je poursuis avec une sanction de la CNIL, 400 000 euros, j'avais donné le chiffre en introduction. C'est très présent dans la presse éco cette semaine, parce que c'est une grosse somme que la CNIL, ouais, elle a
tapée. C'est pas une très grosse boîte qui a pris 400 000 euros.
Alors, c'est une grosse boîte quand même, hein. C'est Sergic, c'est une boîte qui est spécialisée dans l'achat, la vente, la location et la gestion immobilière, la promotion immobilière, comme on dit d'une manière générale. Donc peut-être que c'est votre syndic, votre régie,
c'est aussi un syndic d'immeuble, ouais.
Ouais, bah c'est tout ça, la location, la gestion immobilière. Et la CNIL a tapé sur Sergic. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que elle a cette société, un site sergic.com, et ça permet donc aux candidats à la location et puis aux gens qui sont proprios, enfin, de mettre des informations. Et donc quand tu es locataire, tu vas mettre les pièces justificatives qui vont permettre de constituer ton dossier. Donc tu mets tout ça en ligne, hein, avec ton petit nom, tout ça, tu crées ton petit dossier, ton petit compte et tout ça. Et c'est un... Là aussi, il y a des gens quand même, franchement, ils font des trucs bien pour la société. C'est une personne, utilisateur du site, qui a contacté la CNIL et qui a déposé une plainte contre Sergic pour un petit trou. C'est-à-dire que l'utilisateur s'est aperçu qu'en changeant pas grand-chose dans l'URL, hein, vous savez, des petites choses toutes bêtes...
Il accédait à plein d'infos.
Ouais. Mais alors, tout plein d'infos des autres utilisateurs. Et alors, donc, la CNIL s'est dit, ah bon, ben, alors on va les vérifier. Donc, le 7 septembre 2018, je vous lis le communiqué. Enfin, là, c'est le communiqué de la CNIL, hein, que j'ai sous les yeux. La CNIL explique donc qu'il y a un contrôle en ligne qui a réalisé le 7 septembre 2018 et qui permet de constater que des documents transmis par les candidats à la location étaient librement accessibles sans authentification préalable. Je continue à citer. Parmi ces documents figuraient des copies de cartes d'identité, de cartes vitales, d'avis d'imposition, d'attestations délivrées par la caisse d'allocation familiale, de jugement de divorce, de relevé de compte ou encore d'identité bancaire.
Ah ouais, c'est quand même pas terrible.
Vous comprenez les 400 000 euros. Donc, la CNIL alerte le jour même, je lis encore une fois le communiqué, la société de l'existence de ce défaut de sécurité. Et là-dessus, la CNIL apprend qu'en fait, Sergic est au courant depuis mars 2018.
Et qu'ils n'ont rien fait.
Et qu'ils n'ont rien fait. Alors, ils ont tenté, a priori, si on en lit un petit peu le communiqué de la CNIL, entamer des développements informatiques pour les corriger. C'est écrit comme ça dans le communiqué. Donc, a peut-être fait quelque chose, un peu, peut-être pris un stagiaire, on ne sait pas bien. Mais en tout cas, la correction n'est intervenue que le 17 septembre 2018, c'est-à-dire une fois que la CNIL a fait savoir qu'il y avait un souci. C'est pour ça qu'il y a une sanction. C'est que non seulement il n'y avait pas de protection, mais en plus de ça, Sergic était au courant et n'a rien fait pour agir. Voilà. Punition, sanction, et tout ça parce que une personne s'est dit merde alors.
Ouais.
Allons sur la CNIL et faisons un dépôt de plainte. Ouais, comme quoi, des fois, il ne faut pas grand-chose. Hein. Il suffit d'une personne qui aille au bout de la démarche et pas juste de dire oh, j'ai accès à la carte d'identité du voisin d'à côté. Voilà.
Alors, petite rubrique sur les religions, ni Dieu ni maître, mais autour de l'homophobie, cette fois-ci, puisque la majorité des religions sont porteurs, hein, d'un discours homophobe. Deux petits exemples. Alors, on va aller en Éthiopie, un pays sur lequel on ne s'attarde que très rarement dans ce Scan Info, que nous ne connaissons pas très bien d'ailleurs, il faut quand même l'avouer. En tout cas, une instance religieuse éthiopienne a appelé le gouvernement, c'était lundi en début de semaine, à bloquer une agence de voyage américaine, qui est plutôt dédiée à la communauté LGBT, d'organiser un circuit touristique dans le pays. Alors je cite, ce que va dire, et vous allez voir, ça vaut son pesant de cacahuètes, dirons-nous. Les circuits touristiques ou les programmes de rencontres qui tentent d'utiliser nos sites historiques et notre héritage devraient être immédiatement stoppés par le gouvernement éthiopien, et nous encourageons les Éthiopiens qui soutiennent ces actes immoraux et malfaisants à s'en détacher. Voilà, donc vous êtes LGBT, homo ou apparenté, vous êtes malfaisant et immoraux, ça vous le savez. Alors qui c'est qui a dit ça? C'est Tage Tadel. Donc, qui est secrétaire général de ce fameux groupe œcuménique, puisque c'est comme ça que c'est présenté, c'est-à-dire c'est un groupe plein de religions, qui s'appelle le Conseil interreligieux d'Éthiopie. Donc c'est une conférence de presse en début de semaine. Ça regroupe l'Église orthodoxe, c'est l'Église la plus importante du pays, l'Église catholique, l'Église adventiste du septième jour, bien connue aussi ses évangélistes, différentes obédiences évangéliques et le Conseil suprême éthiopien des affaires islamiques. Tous y sont allés jusqu'à donc condamner cette agence de voyage qui permet à des personnes LGBT de voyager entre elles. C'est ça le cœur de l'agence de voyage. Ils n'arrivent pas avec des drapeaux LGBT faire la promotion de la communauté LGBT. Ils sont beaucoup plus discrets que ça. Mais c'est quand même énervant pour ces religieux. Ce Taguay Tadel a dit aussi, le gouvernement éthiopien devrait prêter toute son attention à cette question et jouer son rôle en protégeant la jeune génération de pratiques immorales contraires aux valeurs éthiopiennes et à la religion. Je vous rappelle, c'est bien pour des raisons religieuses que ces gens sont homophobes. Donc voilà. Alors, le directeur de l'agence... ils n'ont pas donné le nom de l'agence, mais tout le monde sait qui c'est, en fait. C'est un truc qui s'appelle Dodo Tour. Le directeur de l'agence, là, Dan Ware, s'est expliqué. Alors, il a essayé de se justifier en faisant le bisounours un petit peu, en disant qu'effectivement, ils n'avaient pas vocation à répandre des valeurs contraires aux cultures locales. C'est un petit peu... il fait du capitalisme. Il a envie de vendre ses voyages, donc pas dire « Oui, moi, je défends les homos et les homophobes, je lutte contre. » Non, il n'a pas eu ce courage-là. C'est un capitaliste, rappelons-le. En tout cas, il a rappelé que le but de son agence, c'est de permettre à des gens qui sont, pour des raisons affinitaires, du coup, de voyager entre elles. Et ça n'allait pas plus loin que ça. Il n'y avait pas de proposition. Ils ne faisaient pas de la propagande. C'est pas un groupe politique, malheureusement. C'est juste une agence qui fait du business et qui a un créneau un peu particulier. Donc voilà. Et alors on rappelle que en Éthiopie, non seulement la majorité de la population est croyante, non seulement la majorité de la population soutient ces groupes religieux homophobes, mais en plus l'homosexualité est condamnée en Éthiopie. Je crois qu'on risque 15 ans de prison. Donc c'est pas rigolo tous les jours pour la petite communauté LGBT qui peut exister dans ce pays. Alors c'est pas le seul pays d'Afrique. 28 sur les 49 pays d'Afrique ont des lois qui pénalisent les relations homosexuelles. Donc là oui, il y a encore du progrès à faire. Et c'est toujours malheureusement pour des raisons religieuses. Et alors, vous n'êtes pas sans savoir que le mois de juin, c'est toujours le mois des Gay Pride.
C'est le mois des fiertés.
Voilà, alors moi je suis old school, j'utilise l'ancien terme. À Lyon, la marche des fiertés, comme tu le dis, aura lieu samedi 15, donc dans 8, 9, 10 jours, voilà. Comme d'habitude. Et on se dit, est-ce que dans les pays où la religion très importante, on peut avoir des matchs des fiertés. Alors très peu. En Iran, c'est pas possible. En Arabie Saoudite, c'est pas possible.
En Iran, en même temps, tu peux tellement rien faire que...
Voilà, c'est vrai. Mais en Arabie Saoudite et en Iran, c'est la peine de mort, si vous êtes homo. Donc bon, ouais. Tous ces pays où la religion est très très forte, c'est très compliqué. Il reste quelques pays où la religion est forte et où la démocratie existe encore, où c'est possible. Et on va parler du cas d'Israël. Un cas emblématique, puisque la pression religieuse est devenue très très forte et la communauté LGBT continuent de se battre pour essayer d'être visibles et de garder leurs droits, puisque là-bas, heureusement, ils ont le droit d'exister sans se faire condamner à tous les coins de rue. Donc cette année, elle aura lieu cette... Alors ils appellent encore ça la Gay Pride, je suis désolé pour vous, mais pour toi, mais le nom Marche des Fiertés.
Reste la fierté.
Oui, tout à fait. Non, mais c'est
donc c'est juste que effectivement, en français, on a enfin redonné un mot francophone.
Oui, et puis plus ouvert.
Voilà.
Alors, du coup, cette 18e Gay Pride aura lieu jeudi prochain, et elle a lieu où ? À Jérusalem. Donc la ville, une des villes les plus religieuses, enfin la grosse ville la plus religieuse d'Israël. Alors ils ont eu pas mal d'embêtements, on va dire, pour parler poliment, ces dernières années. Et là, l'État et la ville ont décidé de se mobiliser, et c'est plutôt c'est à saluer, puisqu'on a appris que 2500 policiers, alors on est contre les déploiements de policiers, mais là, dans ce cas-là, pour le coup, ça fait partir de ce qu'ils ont besoin pour pas se faire lyncher par les religions intégristes. Donc 2500 1500 policiers vont être déployés dans Jérusalem. Et la police a été formée. Alors, ils ont été beaucoup critiqués ces dernières années. Ils ont même, et c'est un des responsables de la police qui le dit, embaucher des personnes trans dans la police, c'est un truc à signaler, c'est pas tous les corps de police qui font ça. Ils sont en formation essentiellement parce que c'est une action récente, et il y a une personne trans qui est sortie de formation et qui participera au service d'ordre pour protéger les manifestants et les manifestantes, hein, parce qu'il faut les protéger du coup des attaques, notamment des religieux qui sont souvent très présents le long des parcours de ces manifestations. On rappelle, hein, il y a 4 ans, Shira Banki, 16 ans, poignardée à mort par Yishai Schlissel. Et là, la police a été ultra critiquée parce que ce Schlissel, donc un extrémiste ultra-orthodoxe, classiquement, avait déjà poignardé et blessé des personnes en 2015 lors d'une précédente Gay Pride. Il avait fait de la prison, il sortait de prison et la police l'a laissé accéder au lieu, au parcours de la manif. Et ce mec, après, a assassiné quelqu'un. Or, la police a été beaucoup critiquée là-dessus. Du coup, depuis cette affaire-là, il y en a eu d'autres, ils essayent de jouer un rôle un peu plus sérieux. Voilà. Et alors, en dehors de tout ce qui va être fait, ils ont commencé à faire de la préventive. Alors ça, on est totalement contre, bien évidemment, les arrestations préventives, mais ils l'ont fait. Donc ils ont arrêté des militants essentiellement de droite religieuse ou d'extrême droite religieuse, notamment Moshito Ben Zikri, qui avait pour but d'infiltrer la manifestation et d'essayer de perturber la manifestation. Alors perturber, on ne sait pas jusqu'où ça peut aller chez ces gens-là. On l'a vu avec Yishai Schlissel, hein, puisque ça va jusqu'à l'assassinat. Donc c'est des trucs relativement sérieux quand même. C'est pas ils sont pas là avec une banderole à mort les homos. Hein. Ça va beaucoup plus loin que ça. C'est très très agressif. Il y a aussi Benzi Gopstein, qui est le leader d'un groupe d'extrême droite religieuse là, qui s'appelle Léavar. On en a déjà parlé. Qui lui aussi a eu en ce moment des ennuis avec la police. Alors même il a annoncé avoir l'autorisation de la police de manifester aux abords du défilé, à voir ce qui va se passer. Alors lui, et Léava notamment, c'est un parti qui est pas que anti-homo, qui est un parti raciste, puisque il s'oppose au mariage mixte, donc des juifs et des non-juifs. Il s'oppose bien sûr aux droits des LGBT. Il essaye d'empêcher toute activité politique des personnes non-juives au sein d'Israël. Enfin voilà, c'est un groupuscule qui est très à l'extrême droite, dirons-nous. Alors, il y a d'autres choses positives, hein, pour cette préparation. Il y a l'Open House, le Jérusalem Open House, qui est une maison qui permet aux LGBT de faire des choses, de travailler. Qui a eu son budget approuvé très récemment. Bien évidemment, les membres ultra-orthodoxes du conseil municipal de Jérusalem étaient partis, hein, puisqu'ils refusaient de voter pour ces gens-là, dirons-nous. Mais il y a d'autres réactions. Il y a des rabbins qui se mobilisent aussi contre cette manifestation. Il y a un rabbin qui a envoyé un courrier officiel au maire de Jérusalem en demandant qu'il n'y ait pas de drapeau qui soit visible et notamment qu'il soit mis en amont de la Gay Pride. Bon, tout ça s'est rejeté. Pour l'instant, Israël arrive à tenir malgré la pression des religieux qui est de plus en plus forte et malgré le contexte préélectoral, puisque c'est expliqué d'ailleurs par le responsable de la Jérusalem Open House qui dit, bah oui, voilà. Netanyahou n'est pas arrivé à former un gouvernement, donc il y a à nouveau des élections à la rentrée, et comme d'habitude, le discours d'extrême droite religieuse est très mis en avant par tout le monde, donc il y a aussi un enjeu électoraliste très fort sur cette Gay Pride contre les manifestants et les manifestantes. Voilà. J'espère que pour eux et pour elles que ça va bien se passer quand même.
Pour compléter un petit peu ce que tu dis, juste fin mai, on avait appris que l'Institut catholique d'enseignement supérieur de La Roche-sur-Yon avait exclu définitivement, c'est-à-dire les personnes qui ne pourront pas se réinscrire, deux étudiants.
Qui avaient abîmé le stand là.
Ouais, LGBT en Vendée. Hein. Un autre étudiant a été exclu, pourra dans un an se réinscrire. Et puis, en tout, ils étaient 13, les autres ont eu des exclusions
temporaires.
Ou avec sursis. Voilà. Ouais. Mais bon, juste pour dire qu'il y a aussi des réactions qui sont parfois un peu légères certainement pas assez fréquente. Quand on voit que, par exemple, là, les réactions que peuvent provoquer ce train multicolore qui va se balader entre le 7 juin demain, donc, et le 5 juillet, le train de la SNCF arc-en-ciel qui va se balader.
Un TGV, je crois.
C'est un TGV, tout à fait. Pendant le mois des fiertés, c'est vraiment un choix de la SNCF de faire ça. Et quand on voit les réactions que ça peut provoquer...
De haine, hein.
De haine, hein, voilà. Mais quand il faut se souvenir, enfin, il faut lire, hein, Valeurs Actuelles, des fois.
J'arrive pas, je vomis à chaque fois.
Écoute, moi, il y a cet article là que j'ai. La SNCF va lancer une campagne LGBT dans 50 gares en France. Et on nous dit à un moment, alors attends que je te retrouve le truc, le sous-titre. Il y a du blablabla. Et le sous-titre est une opération pilotée par un militant LGBT.
Ah, bah, piloté, voilà.
Piloté. Alors, rien qu'avec ce genre de propos, on sent derrière l'homophobie.
En Israël, je ne suis pas allé jusqu'au bout, mais ils traitent souvent les LGBT de terrorisme LGBT, en fait. Il y a une espèce d'idée que, voilà, ils imposent des choses. Alors, si c'est du terrorisme LGBT, c'est pas désagréable, parce que ça gêne personne, finalement. Alors que leur terrorisme religieux, c'est nettement plus critique.
Allez, on va parler talons, si tu veux.
Oui, sexisme, puisque tout le monde en a parlé aujourd'hui, je le fais quand même parce que c'est symboliquement important. 19 000 personnes, ce qui est ridiculement faible, mais symboliquement fort, ont signé une pétition, un texte lancé par une actrice japonaise qui s'était plainte d'avoir dû porter des talons aigus, enfin des talons hauts, pendant son job d'hôtesse d'accueil. C'est pas la seule, du coup elle a été suivie, ça a beaucoup fait parler, elle a mis un fameux hashtag, comme on dit, qui s'appelle Q2, qui est le mélange de kutsu, qui veut dire chaussure, et kutsu, qui veut dire douleur, parce que en dehors du côté sexiste, hein, qu'elle dénonce vraiment très très fortement, il y a aussi le côté douloureux, parce que les talons hauts, c'est... pas un fonctionnement naturel du corps humain, on rappelle que on est censé marcher à plat, tout ça. Effectivement, elle explique que quand elle a fait ce métier d'hôtesse d'accueil, elle n'arrivait plus du tout à marcher à la fin, elle avait les pieds complètement abîmés, et il y a plein de femmes, du coup, qui l'ont soutenue au Japon, qui ont signalé avoir le même genre de problème. Donc il n'y a pas que le sexisme qui est en jeu, il y a aussi des choses imposées, qui abîment la santé de ces femmes, puisque c'est des femmes dont il est question. Donc, la campagne avait débuté en janvier, hein, et là, aujourd'hui, elle a amené sa pétition au gouvernement en espérant faire interdire l'obligation de porter des talons pour les femmes. Elle prend exemple sur la Colombie-Britannique, c'est un état du Canada qui a interdit aux entreprises de forcer leurs employés féminins, masculins aussi, mais ça se fait beaucoup moins, à porter des talons hauts, qualifiant cette pratique de discriminatoire et de dangereuse. Donc elle a cette image-là. Alors, on n'est pas sûr que ça gagne. Et on lui souhaite, mais c'est mal parti. Il y a un ministre japonais qui s'exprime aujourd'hui et qui a dit, c'est Takumi Nemoto, qui est ministre de la Santé, du Travail et des Affaires Sociales, donc qui est en plein dans le créneau de cette pétition. Il a dit, je soutiens les entreprises qui obligent les femmes à porter des talons hauts, puisque, et je cite, c'est quelque chose qui est socialement accepté, qui tombe dans le domaine de ce qui est professionnellement nécessaire et approprié. Effectivement, secrétaire qui est assise à son bureau, qui doit faire des courriers, envoyer des mails, les talons aiguilles, ça semble obligatoire. Hein. Donc, alors, ce qu'on rappelle, c'est que le Japon, c'est une société qui est très fermée, très à l'ancienne, il n'y a pas beaucoup d'évolution, et que la pression sociale est très forte sur tout le monde. Hein. Les salariés masculins ont aussi des contraintes de s'habiller avec des pantalons foncés, des chemises claires. Il y a assez peu de liberté. Mais, potentiellement, ce que les femmes prennent dans la figure, c'est 10 fois plus. Donc, le combat qu'elles mènent, même s'il est perdu d'avance, il a le mérite d'essayer de faire changer les choses dans un pays qui est ultra conservateur, et notamment dans le domaine des femmes, et conservateur en général. Enfin, voilà. Donc, on lui souhaite tout le courage, tout le bonheur du monde d'y arriver.
Ouais, la grande difficulté pour nous, les femmes, c'est d'arriver à faire ce qu'on veut de notre corps. C'est-à-dire de nous libérer comme on l'entend, c'est-à-dire de nous habiller ou de nous déshabiller comme nous on le souhaite, parce que effectivement on voit aujourd'hui hein, dans nos sociétés occidentales les femmes assez déshabillées, mais c'est une sexualisation de nos corps qui n'est souvent contre nous, c'est-à-dire qu'on va voir des comédiennes dans des films qu'on peut trouver super jolies parce qu'elles portent un petit short que on aimerait pouvoir porter, parce que nos sociétés, notre entourage, notre travail nous empêchent de nous porter ce petit short très moulant. Le problème, c'est est-ce qu'on lui fait porter ce petit short très moulant pour la rendre sexy et donc pour vendre un film? Ou est-ce que c'est parce que c'est un choix conjoint avec la comédienne? Et c'est là toute la problématique aujourd'hui. C'est qu'au fond, on a sexualisé le corps de la femme et on a du mal encore, même si aujourd'hui, dans notre société française, on peut un peu faire ce qu'on veut, on a quand même du mal aujourd'hui à pouvoir aller jusqu'au bout de notre démarche et surtout à faire comme on veut, se maquiller, si on en a envie, ou ne pas le faire. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et c'est au bout, c'est-à-dire qu'en fait, c'est à nous de faire ce qu'on veut.
Non, mais...
Et la difficulté, elle vient là. Et aujourd'hui, dans le travail, le Japon, évidemment, dans une démarche... Mais on en est au palier zéro, quoi.
Ouais, c'est ça. Mais à savoir que la problématique en France, elle existe. Si vous allez dans un salon quelconque, vous regardez les hôtesses d'accueil, c'est la même catastrophe, la même
Alors,
pression.
Le salon de l'automobile avec des femmes couchées sur la voiture.
Je crois que c'est le pire, le salon d'automobile. Mais même un salon industriel sur, je ne sais pas, les machines-outils, par exemple, vous avez des hôtesses d'accueil avec la même tenue.
Il faut être en jupe.
Voilà.
C'est la démonstration.
Voilà. Ces contraintes-là, elles existent aussi, même si c'est moins fort. Elles existent aussi.
C'est un discours là qui est très très apparent sur comment on s'habille, avec on parle beaucoup du sport féminin ces derniers temps, et comment sont habillées les sportives. Est-ce que c'est leur choix ou pas d'avoir du short moulant ou pas? Est-ce que parce qu'il y a des sports où il n'y a pas besoin d'une jupette par exemple, peut-être que les femmes seraient mieux en pantalon, enfin en petit short en tout cas, plutôt qu'avec une jupette. Et tout ça c'est souvent imposé, d'ailleurs c'est souvent imposé par des hommes, et on leur laisse peu le choix. Et c'est vrai que comme on est aussi dans le sport compétition, dans le spectacle, et ben on va aussi mouler le corps, et en particulier donc le corps de la femme. Et donc voilà, et ça c'est un discours en ce moment là qu'on entend beaucoup, parce qu'on parle de sportifs, parce qu'elles gagnent, et donc ça fait amener ce discours là aussi sur et comment on les habille au fait ces sportifs.
Mais quand elles sont pas très sexes au sens misogyne du terme, comme les certaines footballeuses, on a des hommes qui critiquent, qui disent mais non, c'est pas comme ça qu'on veut les voir. On a eu Finkielkraut là, je crois aujourd'hui, qui a fait une sortie horriblement sexiste en disant qu'il voyait pas les femmes faire du sport et que ça allait, et comme il disait dans sa phrase, non mais ils ont qu'à faire du rugby aussi. Vous voyez, on va lui apprendre que il y a aussi des femmes qui jouent au rugby en fait.
On veut absolument détourner aussi toujours la sportive qui serait hyper musclée, ce qui est absolument pas déformée dans son corps pour être plus masculine, alors que non, elles sont juste sportives, point, et qu'il suffit de les regarder. Elles sont juste des corps musclés et bien faits, parce que forcément, quand tu fais du sport un peu souvent, ça sculpte ton corps, mais en même temps, quand t'en fais pas et que t'as du bedon, t'étais tout aussi jolie. Voilà, mais c'est aujourd'hui, on parle beaucoup du sport et du sport féminin et. Parce qu'elle gagne, il faut bien dire, ça amène un discours et que.
Mais finalement, moi qui déteste le sport, je trouve que c'est positif.
Tu détestes le sport compétition.
La compétition. Mais du coup, ça amène un débat sur le sexisme, puisqu'on a des pseudo-philosophes qui y vont de leurs propos sexistes, alors qu'on pensait que c'était finalement passé non, pas du tout.
Pas du tout.
En fait, le combat, il est permanent. Bref, on va parler du Soudan.
Et ça va être moins drôle.
Ouais, alors c'est un niveau supérieur en fait, puisque je sais pas si vous avez fait attention, lundi ça a un petit peu cartonné lors du fameux sitting qui est là depuis début avril devant le quartier général de l'armée. Ça a un peu tiré et le bilan serait au moins de 108 morts. On n'a pas plus d'infos que ça. C'est un peu compliqué d'avoir des infos. Alors c'est donné par le comité des médecins qui soutient les manifestants, qui a compté alors les 40 corps retrouvés dans le Nil, c'est déjà pas mal, et puis tous les autres qui sont passés par différents médecins. Donc 108 morts, ça donne un peu l'idée du massacre, parce que c'est un massacre dont il est question. Alors, les vidéos filmées, on voit les manifestants courir pour essayer d'échapper aux balles qui sont tirées de très très loin par les militaires assassins. Donc voilà, le Soudan est toujours dans cette situation très très compliquée. Alors bien évidemment, le gouvernement provisoire militaire a rejeté le bilan et a dit non, pour nous il n'y a pas plus de 46 morts. Alors déjà c'est apocalyptique, tuer 46 personnes manifestantes, on rappelle que ces manifestants sont pacifiques, c'est déjà incroyable, mais pour eux c'est pas grave, 46, l'important c'est pas d'atteindre les 108, bon bah tant pis, ils ont atteint les 108. Voilà. Alors on rappelle que ces rassemblements-là ont débuté le 6 avril. Ils réclamaient au départ, le départ du président Omar el-Bachir, le dictateur en chef du Soudan depuis moult années. Cinq jours plus tard, il est déchu par l'armée qui garde le pouvoir ou qui prend le pouvoir. Ils ont nommé ça un conseil militaire de transition, mais on est dans un système militaire, donc dans un système non démocratique. Et depuis, les civils sont restés à faire ces sittings pour exiger le transfert du pouvoir aux civils. On en était là. Le mouvement... Alors, les militaires ont un petit peu changé d'avis hier. Jusqu'à maintenant, ils refusaient toute négociation avec l'opposition. Là, ils se sont dit ouverts. Bon, on ne sait pas ce que ça veut dire de la part de militaires, l'ouverture et les négociations. Il y a des contre-exemples de militaires qui lâchent le pouvoir. On se rappelle de la révolution des œillets au Portugal. Mais bon, on n'a quand même pas une énorme confiance dans ces gens-là. Donc on en est là aujourd'hui, dans cet entre-deux. En tout cas, el-Bachir, là, il n'est plus au pouvoir, mais ce qui est à la place, c'est pour l'instant pas forcément mieux, hein, vu le nombre de personnes assassinées lundi. Au niveau international, le Conseil de sécurité de l'ONU, qui était réuni à huis clos mardi, donc le lendemain des massacres, en urgence à l'appel de l'Allemagne et du Royaume-Uni, oui, pas de la France, non, bien évidemment. Ils avaient proposé un communiqué. Ça a été bloqué par la Chine et la Russie, hein, qui aiment beaucoup les régimes totalitaires, vraisemblablement. Alors, eux, ils le font ouvertement. Il y a tous les autres qui disent pas grand-chose et qui en pensent tout autant. On pense à deux pays très très proches géographiquement du Soudan, qui font des pressions par derrière, notamment. On parle de l'Égypte et de l'Arabie Saoudite, qui ont très 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 peur de voir une démocratie s'installer au Soudan. La chute de Omar el-Bachir les a beaucoup inquiétés, et la transition vers un pouvoir militaire les a rassurés. Donc là, pour l'instant, ils sont dans l'entre deux, ils disent pas grand chose, mais ils soutiennent les militaires. Alors, ils le font dans la plus grande discrétion, parce qu'officiellement, ils ont dit, je cite, alors c'est l'Arabie Saoudite et puis les Émirats Arabes Unis notamment, ils ont dit que au nom de la stabilité, ils étaient d'accord pour le départ de Béchir, mais qu'il fallait une transition. Ils n'ont pas dit laquelle. Ils sont allés quand même dire qu'ils soutenaient le peuple soudanais, pour être sûr, mais ils n'ont jamais condamné les militaires. Hein. Donc on est dans l'entre-deux. Le Qatar, c'est un peu la même chose, qui était plutôt en froid avec le régime soudanais, alors que on rappelle que le régime soudanais était très soutenu, hein, la dictature, ces derniers temps, par l'Arabie Saoudite. Donc voilà, on en est là aujourd'hui. Tout le monde a peur, dans la région et un peu plus loin, de l'arrivée d'une démocratie, parce que ça pourrait faire boule de neige. Hein. Autour, il n'y a que des régimes totalitaires. Donc le régime quasi-totalitaire qui est l'Égypte, et puis l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Qatar, tout ça. Donc c'est les enjeux au Soudan ne concernent pas que les Soudanais, et c'est pour ça qu'il y a de l'ingérence, et c'est pour ça que c'est un peu problématique. C'est parce que vraisemblablement, le peuple veut la démocratie, et tout autour, personne n'en veut. Et comme peu de gouvernements ont du courage, on notera l'absence de courage de M. Macron, on en est là, et c'est pareil, la situation est quand même critique, et l'espoir est faible, mais pas nul. Donc on vous tiendra au courant de ce qui se passera au Soudan dans les semaines et les mois qui viennent.
Alors comme il nous reste peu de temps, je vais garder une partie de mes sujets pour la semaine prochaine, parce que ça va pas se périmer, et qu'en plus on en saura un peu plus sur un de mes sujets qui concernait l'Opéra de Lyon et le TNP. Je vais vous parler de ce qui est arrivé à BFM TV, qui s'est pris une petite claque du CSA. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel a mis en demeure hier, mercredi, BFM TV, donc la chaîne d'information continue, pour avoir diffusé samedi la finale de la Ligue des Champions en direct en clair.
Alors, ils n'avaient pas le droit ?
Non. Ben non, parce que je vous rappelle qu'en France, quand tu as une télé, tu as des obligations. Tu ne fais pas ce que tu veux.
Oui, alors on a un régime. D'ailleurs,
Radio Canu. Je vous rappelle le CSA, on appelle ça un gendarme.
Oui, alors c'est un pouvoir autoritaire hein, qui est au-dessus de tous les médias, de l'audiovisuel seulement. Donc on en fait partie, hein, nous aussi, on n'a pas le droit de faire ce qu'on veut. Mais la liberté reste assez grande quand même, faut pas délirer non plus. Mais le système n'est pas vraiment démocratique hein, là-dessus.
Non, tu peux pas faire ce que tu veux. Et BFM TV avait fait savoir avant cette diffusion, donc c'était entre Tottenham et Liverpool, à son public qu'il y aurait eu cette diffusion. Le CSA avait fait une mise en garde hein, préalable là-dessus. Donc là, c'est une mise en demeure, hein, qui est, c'est un avertissement. Oui, avant la sanction, si jamais BFM TV recommence.
Ouais, mais ils n'ont jamais de sanction sur ce genre de truc.
Ah, si, si, ils ont raison. Mais BFM TV, aujourd'hui, est en plein élargissement. Je vous rappelle que BFM TV a racheté TLM sur Lyon. Et a priori, pour ce qu'on peut en comprendre, ça va pas s'arrêter là au niveau des chaînes locales. Donc l'idée de BFM, c'est quand même d'avoir de s'installer dans le paysage, qui est déjà bien installé, hein, du paysage audiovisuel français. Et il y a une certaine. Potentiel financier quand même pour soutenir une amende du CSA. Alors je sais pas quelle est l'amende, le montant de l'amende hein, pour ce genre de choses. Donc c'est en cas de récidive. Donc là pour l'instant c'est un peu juste une claque, c'est une tape sur les doigts si vous voulez. Alors, il faut savoir que le CSA avait été saisi par les concurrents de BFM, puisqu'il y a une convention particulière hein, qui lie BFM TV avec le CSA, qui prévoit que la programmation est consacrée à l'information, notamment à l'information économique et financière, et peut être complétée le samedi et le dimanche par des rediffusions d'événements d'anthologie du sport. Sauf que le CSA a estimé... Oui, tu hausses les sourcils. C'est très précis, hein, bah ouais, c'est pas juste des trucs qui font une page hein, quand tu ouvres une chaîne de télé comme ça. Le CSA a donc estimé que la diffusion en direct de la totalité de ce match qui ne peut être qualifié ni de programme d'information ni de rediffusion d'un événement d'anthologie du sport, et donc il y a un manquement. C'est-à-dire que c'est un match certes spectaculaire pour
mais
un certain nombre de supporters,
direct, on ne sait pas encore si c'est d'anthologie du coup.
Et voilà. Et en plus c'est en direct pour BFM TV la chaîne était dans son bon droit et respectait sa convention. Donc on sent qu'il y a un peu confrontation et on joue un peu sur les jeux. Alors est-ce que BFM TV voudrait faire modifier sa convention pour avoir une autre programmation et s'ouvrir au sport? C'est aujourd'hui que c'est que tout le monde veut faire ça, hein, avoir du sport parce que c'est ce qui rapporte les pépettes, c'est-à-dire la publicité hein, parce que du coup il y a des gens qui sont devant et qui allument leur télévision. Il paraît que donc il y a une divergence d'appréciation. Je cite Hervé Béroux, le directeur général de BFM TV, pour qui il n'y a pas à polémiquer. Alors, pour dire un petit peu, BFM TV, là, c'est quand même en moyenne 2,5 millions de téléspectateurs. Voilà, donc le groupe Altice est très content de sa chaîne et donc met les deux pieds dedans pour voir jusqu'où elle peut aller avec le CSA. Oui. Très clairement, on en est là,
on teste
et on voit exactement ce qui pourrait se passer, quitte à peut-être aller jusqu'à l'amende, je ne sais pas. Je propose qu'on parle des illuminés.
Ah oui, tu veux faire ça.
Anti-Linky, bah alors, oui, puis si on a le temps, je terminerai sur Tchernobyl.
Alors ça va être relativement rapide. En fait, c'est sur un site anti-conspirationniste que j'ai pris l'info. J'avais déjà parlé un peu de ces illuminés. Illuminé anti-Linky. Alors, je redis tout de suite, et c'était ma conclusion, mais on est contre Linky aussi, mais pas pour les mêmes raisons.
C'est pour ça, hein, voilà. Quand même, je me demandais de quoi tu voulais
donc
parler.
Donc là, ça s'appelle que... Les Citoyens Éclairés. C'est une asso qui milite contre l'installation de ce compteur que le Enedis qualifie d'intelligent. Hein. Vous inquiétez pas, il n'y a pas d'intelligence dans un compteur. Par contre, il y a plein d'autres choses. Et le 28 mai dernier, ces activistes, par exemple, anti-Linky, étaient devant la cour d'appel de Rennes, puisque 10 d'entre eux avaient interjecté en appel un mois plus tôt, parce qu'ils faisaient partie d'un groupe de plaignants, c'est dans la région de Rennes, en attaque, en référé face à Enedis. Bon, ils ont été déboutés au motif que, et c'est là on va parler des motifs, que les atteintes possibles à la santé et les risques d'atteinte aux biens n'étaient pas suffisamment documentés. En fait, ces personnes qui se réclament de ce collectif-là, ou de cet asso, les citoyens éclairés, partent du principe que les compteurs sont dangereux à la santé, à cause des rayonnements qu'ils émettent. Et alors ils vont très très loin, ils disent ça amène des pathologies telles que maux de tête, acouphènes, voire cancer du cerveau et leucémie infantile. Là, on se dit, ça va très loin, et le problème, c'est qu'ils ont aucune preuve, qu'ils amènent rien là-dessus. On rappelle que le compteur, c'est un compteur qui transmet des informations régulièrement par courant porteur, donc on rajoute sur le signal alternatif monophasé 230 volts, un petit signal qui est des informations en 0 ou 1, là, puisque c'est des informations numériques, mais qui est sur une fréquence différente du 50 Hz du réseau. Ça rayonne un petit peu, mais quand on fait des mesures, en fait, c'est très très faible. Et l'idée de ces gens de dire que c'est très mauvais parce que ils sont dans des assos qui sont contre les rayonnements électromagnétiques, ça fonctionne pas bien. Alors ils citent des hurluberlus, par exemple sur leur site ils citent le docteur Springob, qui est un américain qui a inventé soi-disant une technique de médecine révolutionnaire consistant à soigner par les plantes et surtout à équilibrer son champ énergétique. Donc le champ énergétique d'un être humain n'existe pas, mais ça, on est dans ces sites comme ça qui racontent un peu n'importe quoi au niveau de la santé. Alors il y a plein de choses autour de tout ça. Ils sont très parano, ils colportent beaucoup de théories complotistes. D'ailleurs sur le site de la responsable qui s'appelle Danielle Bovin, voilà, elle publie des trucs qui viennent de médias pour tous. Par exemple le cinéaste proche de l'extrême droite qui s'appelle Vincent Lapierre. Elle publie des trucs qui viennent de l'UPR, les complotistes de François Asselineau, des choses comme ça. Mais le plus dangereux dans ces gens-là, c'est qu'avec leur théorie de la dangerosité, il y a d'autres choses qui sont dangereuses. Alors sur les ondes électromagnétiques, il n'y a aucune preuve pour l'instant, même sur le Wi-Fi, des choses comme ça. Il faut amener des preuves quand on veut. Il y a des suspicions, mais on n'est pas encore dans le domaine de la preuve. Et surtout, dans un compteur comme le Linky, où les émissions d'ondes électromagnétiques sont très très faibles, et bien inférieures au Wi-Fi que vous avez quand vous passez dans une rue, en fait. C'est dommage. C'est dommage parce que il casse la lutte anti-Linky. Le problème du Linky, c'est que c'est un compteur qui envoie des informations régulières, très précises, et qui est donc une vraie menace liberticide sur la population. Et c'est de ça dont il faut lutter, dont il faut se servir pour lutter contre l'installation de ces compteurs qui espionnent malgré le discours pseudo anonymisant des données véhiculées par Enedis. Et c'est pas du tout c'est pas du tout totalement anonymisé, et surtout c'est potentiellement on peut lever cet anonymat. Donc il y a un vrai souci là-dessus, il y a un vrai danger liberticide, et c'est contre ça qu'il faut s'élever pour lutter contre ce compteur Linky, et pas utiliser des pseudo-problèmes de santé publique sur lesquels il n'y a rien de tangible, même pour des personnes dites électrosensibles. Donc c'est hurluberlu qui nous casse la lutte contre Linky.
Alors, on va terminer en parlant de Tchernobyl sans le T. C'est une série en 5 épisodes qui est écrite par Craig Mazin et réalisée par Joanne Wenck, qui est coproduite par HBO et Sky. Une mini-série donc sur la catastrophe de Tchernobyl nucléaire, hein, en 1986. Alors, c'est une série en anglais avec des acteurs et des actrices anglophones, ce qui peut énerver des gens comme toi.
Oui, parce que c'est pas réel, il manque le réalisme de la langue.
Oui, mais ça reste quand même une histoire. Oui, enfin, ce que je veux dire, c'est pas un documentaire. Donc j'entends, parce que j'ai dit, même moi, ça m'a un peu surprise au début, bien évidemment. Mais c'est après un pays, hein. Je veux dire, s'il y avait que les Russes qui avaient le droit de parler de Tchernobyl et non faire des films ou des séries, ça serait bien embêtant. En tout cas, c'est une série qui fait son petit bonhomme de chemin à travers le monde, qui a sa petite réputation et qui amène des choses auxquelles on n'attendait pas forcément, c'est-à-dire le développement très fort d'un tourisme radioactif.
Alors, ça existait déjà.
Alors, c'est ouvert depuis 2010, c'est-à-dire que tu peux avoir une autorisation, hein, les autorités ukrainiennes te donnent un laissez-passer, tu dois respecter des normes et des consignes, et on t'emmène sur le site. Mais bon, c'était 30 000 personnes par an. Et il paraît que depuis le premier épisode, les gens s'en mêlent. Et il y a une demande au tour opérateur d'aller visiter le site, mais comme si on allait visiter Disneyland. C'est-à-dire, les gens sont prêts, je crois, à Lantong. C'est ce tourisme un peu particulier de masse, inconscient, stupide, irresponsable. Je vais m'arrêter là avec les adjectifs.
Il y a un tourisme des catastrophes qui existe comme ça autour.
Donc
Tchernobyl, ça avait été stigmatisé il y a quelques années. Il y a d'autres endroits comme ça dans le monde où une sorte de tourisme malsain vont voir les choses qu'on pétait.
Oui, parce que regarde, des gens qui vont sur protéger pour y ramener une information ou pour se faire un avis, bon, pourquoi pas. Mais là, on sent qu'il y a un nouveau tourisme qui, effectivement, va faire des selfies.
Voilà, le but, c'est de faire un selfie avec la centrale, enfin, le dôme de la centrale derrière, voilà.
Alors, cette série, moi, je la trouve assez intéressante. Elle est assez juste, historiquement, quand même. Même si, des fois, effectivement, il y a quelques raccourcis et quelques choix de mise en scène, évidemment, des personnages qui n'existent pas.
Bien évidemment, c'est une
fiction. Mais c'est quand même souvent assez juste au niveau de la temporalité, du moment où se sont passées les choses, des personnages qui sont des vrais intervenants, qui ont, c'est les vrais noms, les vrais gens, qui sont parfois morts là-bas. D'autres sont inventés, mais ça permet de recréer évidemment du lien sur l'histoire. Tout ça pour donner aussi du sens et humaniser une catastrophe. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, c'est en ça où cette série, évidemment, elle fonctionne. Et elle fâche aussi des gens. Parce que c'est une série faite par des étrangers.
Des Américains, c'est ça?
Eh oui, HBO. Et que du côté des Russes, on n'applaudit pas forcément cette création. Pourquoi? Parce que M. Poutine, il faut le rappeler...
Il est pro-nucléaire déjà.
Oui, et puis il refuse toujours d'admettre qu'il s'est passé un truc à Tchernobyl, que il y a enfin,
si il admet la catastrophe, hein.
Oui, mais enfin que il y a eu des non-réactions, que les chefs et les sous-chefs et les petits chefs et les petits chefs ont voulu cacher la vérité. Et c'est ça que nous raconte aussi la série, c'est-à-dire qu'à un moment il y a un être humain sur place qui dit oulala, il se passe rien. Il y a un petit chef au-dessus qui dit non, c'est vrai qu'il se passe rien. Il y a encore un petit chef et ainsi de suite. Et tout ça amène jusqu'à Gorbatchev qui quand même dans la réalité a dû envoyer comme le KGB hein, pour savoir ce qui s'y passait, ce qui est moins raconté en fait dans la série. Hein. Mais en tout cas la réalité elle est là, c'est-à-dire que l'être humain a fait des choix au nom d'une propagande soviétique pour cacher une réalité. On en a discuté ensemble, on peut penser qu'en France...
Oui, alors nous, pas question de parler de la fusion du cœur.
C'est pas juste parce que c'est soviétique.
Voilà.
Hein.
Oui, alors,
mais là-bas, ça a mis quand même une couche supplémentaire au fait de cacher la réalité, et ça a mis aussi du complot.
Que Poutine soit énervé, moi je le comprends, mais il a qu'à faire sa propre série un peu réaliste. Or, il le fait pas. Mais ce qui est quand même... là où je le comprends, c'est que les Américains, ils auraient pu faire ça sur Fremantle Island. Leur propre catastrophe nucléaire.
Alors, encore une fois, c'est le choix d'un artiste
qui décide. C'est un peu facile, moi, je trouve.
C'est le choix d'un artiste de raconter une des plus grandes catastrophes de l'humanité technologique et humaine, hein, quand même. On a viré des gens. Les gens sont morts, les gens sont malades. Donc, c'est ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant aussi derrière, c'est le complotisme qui a toujours existé sur la catastrophe de Tchernobyl, c'est-à-dire que c'est la CIA qui a. bah oui, tu ne savais pas,
Je
te l'apprends. Qui, donc, a saboté, en fait, la centrale, et c'est pour ça que tout le monde est mort, parce qu'ils voilà, ont voulu. Du mal au soviétisme et au communisme.
Alors, le truc, c'est qu'ils n'ont même pas besoin de saboter pour que ça pète le nucléaire. Hein.
Et que ce complotisme, il revient en force avec la série. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu lis un peu des trucs, t'as l'impression, tu vas sur Spoutnik, sur RT, tout ça, t'as l'impression qu'en fait, c'est la CIA qui a donc financé la série pour pouvoir rappeler que, en fait, les soviétiques, c'était des méchants. Et que en fait c'est pas leur faute si il y a eu une catastrophe. Donc c'est marrant comme un acte créateur, c'est une création, c'est un acte de création artistique amène aujourd'hui un bisbille quand même assez fort à travers le monde sur ce qui s'est passé à Tchernobyl. Voilà, c'est une bonne petite série quand même à voir. Historiquement c'est assez intéressant et ça permet surtout de se replonger dans des documentaires qui existent depuis maintenant.
Il y a eu beaucoup de choses sur Tchernobyl.
Voilà, et puis dans un certain nombre de littératures. Mais en tout cas c'est assez facile d'accès et c'est assez juste. Ça se regarde plutôt bien.
Voilà. Eh ben, il est 20h pile. On vous laisse en compagnie de la petite cuillère.
Eh oui, on se retrouve, nous, la semaine prochaine. Ciao, ciao.
Bye, bye.